Rodrigue Koné Fayramba, bonjour.
Bonjour.
Depuis quelque temps, l'on assiste à des attaques meurtrières répétées des territoires au Burkina Faso, au Mali et puis à un degré moindre au Niger. Ces trois États du Sahel, comment vous expliquez ces nombreuses attaques?
Bon, on va dire qu'il y a eu une intensification un peu de la lutte armée contre les groupes terroristes depuis 2 ans. Les États sahéliens ont intensifié leur lutte et donc du coup, nous assistons à une forme également d'adaptation et de réaction de ces groupes-là vis-à-vis des attaques et des armées. Donc, cette intensification-là se traduit par un changement notable qu'on observe par les ciblages également des civils, des communautés qui sont considérées parfois par ces groupes-là comme des alliés des armées nationales qui les attaquent. D'autre part, on voit aussi que ces groupes-là tentent également de maîtriser la communication en faisant étalage de leurs attaques sur les réseaux sociaux.
Quand on sait que ces pays sont dirigés par des régimes militaires qui sont arrivés au pouvoir en arguant donc du fait qu'il y a des problèmes de sécurité. Est-ce qu'on peut dire que ces régimes sont à bout de souffle?
On ne peut pas forcément dire que ces régimes sont à bout de souffle. Hein. Il faut reconnaître qu'avant l'arrivée de ces militaires à la tête de ces États avaient de très faibles capacités au niveau militaire. Ces régimes ont tenté de rehausser donc les équipements, le recrutement et la stratégie mise en place pour lutter contre les groupes-là. Donc, il y a eu une évolution au niveau de la capacitation de ces armées, mais puisqu'il y a beaucoup plus d'offensives, donc beaucoup plus de réactivité, on se rend compte que l'action militarisée présente également quelques limites.
Mais comparativement à la situation d'avant l'arrivée de ces régimes au pouvoir, est-ce qu'on peut dire que les choses sont contenues?
Oui, il faut peut-être une analyse beaucoup plus fine et plus complexe de la situation. Il ne faut pas faire une comparaison simple en disant que c'était mieux avant ou c'est pire aujourd'hui. Il faut savoir que le rapport de force a également changé. Il y avait véritablement un contrôle des groupes armés sur ces territoires. Et certaines zones, et quand les États ont décidé de relancer des offensives pour récupérer ces territoires, on sent beaucoup plus donc une intensification des combats. Et cela ne veut pas dire qu'avant, ils maîtrisaient mieux ces territoires, seulement ils n'avaient même pas du tout le contrôle de ces territoires. Mais est-ce que véritablement cette action militaire a des résultats probants? On peut toujours questionner.
Vous avez parlé des réseaux sociaux. Qu'on se situe dans un axe ou dans l'autre, apparemment, la communication bat son plein à travers donc les offensives et les réactions.
Oui, tout à fait. La communication en temps de guerre est une communication bien particulière et malheureusement, nous sommes aussi dans un contexte où les réseaux sociaux ont donné beaucoup plus de possibilités à une large palette de personnes qui, sans communication maîtrisée, peuvent également diffuser de l'information, pas toujours vérifiée à sa source. Ce qui est certain, on voit une intensification des violences sur le terrain, à la fois des massacres importants de populations qui sont menées d'un côté parfois par des groupes terroristes, mais également par certaines armées. Et cela est rapporté par des sources indépendantes parfois, mais cela doit interpeller l'ensemble des acteurs hein, pour travailler à ce qu'il y ait une grande protection des civils à cette escalade de violence.
Malgré ça, on entend quand même les autorités de ces pays défendre le fait qu'il y a des avancées hein, dans l'aspect sécuritaire.
Oui, comme je l'ai dit, quand on compare le niveau auquel ces armées étaient au départ avec le niveau atteint en termes d'équipement, en termes de renforcement, il y a certes une avancée seulement. Comme on le dit, l'action militaire pour ce type de menace sécuritaire est insuffisante. Il faut la compléter avec d'autres approches en termes, je pourrais dire, de développement, d'approche humanitaire, de protection des civils, de négociation, pour travailler à créer des formes de pacification au-delà de l'action militaire.
Donc, il y a quelque chose à faire aujourd'hui pour mettre fin à cet imbroglio.
Tout à fait, parce qu'il faut savoir que ces États ont fait face à une menace auxquelles leurs armées n'étaient pas du tout préparées. 10 ans d'insécurité au Sahel, ces armées tentent de reprendre l'initiative, renforcer les capacités. Cela s'accompagne forcément avec un ensemble de défis majeurs. Et les dirigeants sont conscients de ces défis, mais ils doivent être conscients encore des plus grands enjeux de stabilité durable. L'action militaire ne suffira pas, d'autant plus qu'elle peut être malheureusement à l'origine de l'implantation aussi des crises futures si elle n'est pas maîtrisée.
Donc que faire?
Nous pensons qu'il serait important que ces États-là puissent réfléchir à travailler au-delà, comme j'ai dit, de l'action militaire. Il y a des exemples très intéressants au Niger, par exemple. Il y a eu des approches de dialogue au Burkina il y a quelques années, au Mali aussi. Donc parfois, ce type de dialogue au niveau local arrive en mobilisation mobilisant les chefs de communauté à apaiser les situations et à créer plus de stabilité pour les protections.
Rodrigue Conné, merci beaucoup.
Merci.